Bonsoir, bonne année. Je voulais remercier Françoise, Bressa et puis toute l'équipe du TNP de m'avoir permis de rattraper ces séances de l'automne que je n'ai pas pu faire et que je regrettais bien. Donc voilà, merci pour cette opportunité. Bien, alors on va évoquer ce soir deux artistes de la seconde moitié du 19e siècle, deux compagnons qui n'ont cessé de se renouveler au gré de leur voyage, au gré de leurs recherches, de leur perdition aussi. Deux artistes dont les œuvres entrent en résonance, dont les itinéraires sont mêlés, et deux artistes qui illustrent bien ce concept de crise qui traverse toutes les séances de l'Université populaire cette année. Vincent Van Gogh, donc, et Paul Gauguin. Je vais commencer par vous parler un peu de Vincent Van Gogh, et je voulais laisser la parole à un écrivain qui s'appelle Antonin Artaud. Antonin Artaud publie en 1947 un petit livre très très court sur la trajectoire de Vincent Van Gogh. C'est un petit livre intitulé « Van Gogh ou le suicidé de la société ». Et Antonin Artaud se reconnaît dans le personnage de Van Gogh. Artaud, tout comme Van Gogh, a connu les maisons de santé, les hôpitaux psychiatriques, et forcément, il y a une certaine empathie. Artaud a des atomes crochus avec le cheminement, la trajectoire de Van Gogh, et va chercher, dans ce tout petit livre, à réhabiliter son parcours d'artiste. Je le cite pour ouvrir cette séance. Non, Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III. Donc Artaud, là, campe un personnage hors norme, un personnage bien à part, qu'on va découvrir plus précisément aujourd'hui. Alors, Van Gogh, né en Hollande en 1853, Van Gogh donc est un artiste qui naît en Hollande en 1853 et on va le retrouver assez rapidement à Paris. Van Gogh au départ n'est pas artiste, il a très tôt le goût pour l'art, il s'intéresse à l'art, il s'intéresse à la peinture. Pour autant, le cheminement vers la vie d'artiste va être extrêmement long, extrêmement laborieux et semé d'embûches. On le retrouve donc à Paris dans les années 1870, il y a une vingtaine d'années, et il va travailler dans le négoce d'art. Un métier assez ingrat finalement, qui ne l'intéresse que très partiellement, et donc il va abandonner le négoce pour se consacrer à la religion. Il se cherche, il a une vingtaine d'années, et par ailleurs, son père est pasteur, donc il se dit « Pourquoi pas ne pas suivre les traces de mon père et pourquoi pas ne pas m'engager à mon tour dans une carrière religieuse ?» Alors Van Gogh quitte Paris, retourne dans son pays natal, retourne aux Pays-Bas. On est dans les années 1877, 1878, 1879. Et Van Gogh va tenter une carrière religieuse. Alors au départ, il veut entrer dans cette carrière religieuse par la grande porte. Il veut tenter des études de théologie qui échouent, lamentablement. Van Gogh hésite. Et puis, solution de repli, il va se décider à évangéliser les régions de la Belgique et des Pays-Bas. Et donc, à cette époque, il va commencer à peindre, à dessiner. Il va être le témoin de la misère des campagnes, une misère noire, et il va être influencé par un certain nombre d'artistes, et notamment par Frans Hals, qu'on voit ici, et par Rembrandt. Hals et Rembrandt, ce sont des artistes flamands et hollandais, ce sont les grands peintres luministes de la Hollande du XVIIe siècle. Ce sont des peintres qui réinventent la leçon du Caravage. Caravage, c'est le peintre du clair-obscur, hein, c'est un artiste italien du XVIIe siècle qui va travailler beaucoup sur l'ombre et la lumière et qui va réaliser tout un tas de scènes religieuses, notamment, qui sont dramatisées, qui sont sublimées par ces clairs-obscurs. Hals et Rembrandt, donc en Flandre et aux Pays-Bas, vont réinventer cette leçon du Caravage et vont présenter des scènes marquées par un clair-obscur beaucoup plus doux, beaucoup plus atténué. Alors chez Frans Hals, ça va être des scènes très, très cocasses, très burlesques. On est dans le monde interlope des tavernes, des auberges. Là, le joyeux buveur en est un bon exemple. On a un clair-obscur hein, qui va marquer le personnage, qui va le sublimer, qui va le faire émerger de ce fond sombre dans des tons marrons. Et puis le clair-obscur, il va être aussi sublimé par un artiste comme Rembrandt, qui lui va créer des scènes beaucoup plus intimistes, beaucoup plus mélancoliques aussi, voire oniriques, comme ici pour ce philosophe. Autre influence, la peinture contemporaine, et notamment tous les peintres français du XIXe siècle, comme Jean-François Millet, qui se sont intéressés à la campagne et à la vie rurale. Van Gogh, en l'occurrence, a une vraie fascination pour Jean-François Millet, pour cette campagne noble et belle. Bon, là, c'est le tableau emblématique de Millet, c'est l'Angélus. C'est un tableau qui est conservé au musée d'Orsay. Et Millet campe ici la vie campagnarde dans toute sa simplicité et dans toute son humilité. On a ce couple de paysans qui a cessé les travaux des champs pour se consacrer à la prière, et on les voit sobres, humbles, dans cette campagne française. Van Gogh se consacre donc à la religion, mais il a une culture artistique, une culture intellectuelle impressionnante. Donc j'ai évoqué Franz Hals, j'ai évoqué Rembrandt, j'évoque ici Millet, ce sont des artistes que Van Gogh a découverts à Paris, puis en Belgique, puis aux Pays-Bas, en fréquentant les galeries, en fréquentant les musées. Il s'abreuve littéralement de toutes ses œuvres et de toutes ses peintures. L'art est omniprésent dans sa vie, et on le sait parce que Vincent Van Gogh a beaucoup correspondu avec son frère Théo. Ils ont une relation très fusionnel, Théo et Vincent Van Gogh. Théo est plus jeune, c'est un jeune frère qui va croire profondément dans le talent de son aîné, qui va l'aider moralement, financièrement, tout au long de sa vie. Et on a la chance de conserver intacte cette correspondance entre les deux frères. Et c'est une correspondance qui est véritablement le miroir de toute la vie, de toutes les petites joies, de toutes les déconvenues de Vincent Van Gogh. Je vous cite une lettre écrite par Vincent Van Gogh alors qu'il est aux Pays-Bas, et donc qu'il se consacre à l'évangélisation, qu'il se consacre à la vie religieuse, et il écrit « Tu dois savoir qu'il n'y a pas de tableau dans le Borinage, qu'en général, on ne sait pas du tout ce qu'est qu'un tableau. Il va donc de soi que depuis mon départ de Bruxelles, je n'ai rien vu en fait d'art. Mais n'empêche, le pays est très caractéristique, très pittoresque. Tout y parle, pour ainsi dire. » Et tout y est plein de caractère. Ces derniers jours, les jours sombres précédant Noël, la neige est tombée. Tout rappelait les tableaux moyenâgeux de Bruegel le paysan et de tant d'autres qui ont réussi à exprimer d'une façon si frappante l'effet caractéristique du rouge et du vert, du noir et du blanc. Ce que l'on voit ici me fait toujours penser à l'œuvre, par exemple, de Tismaris ou d'Albert Durer. Il y a ici des chemins creux couverts de ronces et de vieux arbres tordus avec leurs racines fantasques qui ressemblent tout à fait à ce chemin d'une eau forte de Durer, le chevalier et la mort. » Donc, c'est une lettre, c'est un extrait de lettre qui vous montre l'étendue de la culture de Vincent Van Gogh, qui, dans les rencontres qu'il fait, dans les paysages qu'il traverse, pense constamment à l'art et pense constamment à des artistes qu'il a pu découvrir dans les galeries ou dans les musées. L'art l'habite, et toutes ces lettres témoignent vraiment d'une culture artistique et intellectuelle impressionnante. Donc je l'ai dit, il est très influencé par les peintres luministes du XVIIe siècle, il est très influencé par la peinture contemporaine, notamment par Jean-François Millet. Et voici l'une des œuvres emblématiques de cette période, Les mangeurs de pommes de terre. Donc on est face à une œuvre qui reprend les thématiques chères à Millet. On est dans la vie rurale, dans la vie paysanne, une vie rurale décrite avec sobriété, avec simplicité. Là, en l'occurrence, on est dans un intérieur assez rudimentaire, avec cette famille de paysans qui dînent de pommes de terre dans une sorte de masure très sombre, à peine éclairée par cette lampe au centre du tableau. Et on est dans une œuvre caractéristique aussi au niveau de la facture. Van Gogh, au départ, utilise des tons très sombres, très terreux. On est face à des œuvres qui sont lourdes et qui sont tristes. Et on est surtout face à des œuvres dont la facture est comme hachée. les tableaux peints par Van Gogh à cette époque sont brossés vigoureusement. Il y a vraiment une facture très physique qui saute aux yeux quand on voit ce type de production. C'est un tableau qui est peint alors que Van Gogh est chez ses parents aux Pays-Bas, en proie à une sorte de crise existentielle, hésitant à prolonger cette carrière religieuse qui lui plaît par certains côtés. Il aime ce contact avec les gens et qui en même temps est très frustrante parce qu'il voudrait travailler, il voudrait vivre de l'art et il ne peut pas. Van Gogh va donc quitter la Belgique puis les Pays-Bas et va retourner à Paris. Et à Paris, il va découvrir deux mouvements qui à cette époque font fureur, l'impressionnisme et le néo-impressionnisme. L'impressionnisme, en quelques mots, c'est la peinture de la vie moderne, des visions inconstantes, mouvantes, accentuées par le goût des peintres pour peindre en plein air. L'impressionnisme, c'est un mouvement qui coïncide avec l'invention du tube de peinture, donc ça permet aux peintres d'aller saisir le motif sur le vif. Avant, les peintres étaient cantonnés dans leur atelier. Désormais, ils peuvent aller traquer le motif dans la nature. L'impressionnisme, c'est un mouvement qui est marqué par un côté un peu ébauché, qui a été très décrié à l'époque. Et le néo-impressionnisme, c'est un mouvement qui naît de l'impressionnisme. C'est un mouvement qui va accentuer cette recherche sur la couleur, sur la lumière, et qui va l'accentuer de façon quasi clinique, quasi scientifique. Les néo-impressionnistes vont diviser la touche. On va avoir une multitude de petites touches de couleurs. Ce sont des artistes comme Georges Seurat, par exemple, comme André Paul Signac, André Derain aussi, mais il est un peu à part. Bref, donc Van Gogh va découvrir l'impressionnisme, le néo-impressionnisme, et ça va être pour lui une véritable découverte, une véritable libération. Cette capacité qu'ont les impressionnistes à saisir le motif sur le vif, à rendre palpable la lumière, à rendre palpable les couleurs, va être une véritable découverte. Et ça va beaucoup l'influencer. Et voici un tableau typique de cette période. Alors là, on est très très loin des mangeurs de pommes de terre, au niveau des couleurs. On a des couleurs beaucoup plus claires, qui évoquent justement l'atmosphère printanière. Donc Van Gogh procède par touche colorée, et on voit que sa touche, on avait vu au début dans les mangeurs de pommes de terre qu'on avait l'impression que le tableau était brossé vigoureusement. Là, on est par petites touches, on est presque dans le pointillisme. Et on a donc un tableau qui est typique de l'impressionnisme. On est dans la peinture de plein air, en l'occurrence une scène de pêche au printemps dans la région parisienne. On a cette multitude de taches destinées à rendre palpable la lumière, et ça c'est tout à fait typique de l'impressionnisme. Autre œuvre peinte à la même époque, le restaurant de la Sirène à Asnières, donc toujours cette vie parisienne. C'est un tableau qui évoque beaucoup par exemple le moulin de la Galette de Renoir. Il y a ce goût de Van Gogh pour les lieux de sociabilité affectionnés des Parisiens. Là, on en a un bon exemple et on retrouve toujours des touches et des couleurs très très douces, beaucoup plus gaies, beaucoup plus joyeuses, qui vont vraiment marquer cette période parisienne. La période parisienne, elle est très importante pour Van Gogh parce qu'elle va être l'occasion de rencontrer d'autres artistes. C'est à ce moment-là, notamment, que Van Gogh va rencontrer Paul Gauguin. Alors la rencontre avec Paul Gauguin est sidérante, elle est étourdissante pour Van Gogh. Van Gogh tombe amoureux presque de Gauguin, il l'admire, il le vénère, et il a envie, dès cette période-là, de travailler avec lui. Van Gogh a un rêve, une lubie, un fantasme, celui de créer une sorte de colonie d'artistes dans le sud de la France. Et il va n'avoir de cesse de solliciter Gauguin pour qu'il le rejoigne dans le sud de la France pour créer une sorte d'atelier commun. Cet atelier verra le jour, on va le voir, mais malheureusement ce ne sera pas à la hauteur des espérances de Van Gogh. Autre tableau peint à Paris, le portrait du Père Tanguy. Alors le Père Tanguy, c'était un personnage, c'était un marchand de couleurs, c'était le marchand de couleurs attitré de Van Gogh. Je dis que c'était un personnage parce qu'il a été de tous les combats qui ont secoué la vie parisienne dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Le père Tanguy, c'est un ancien communard, donc c'était un personnage très politisé. Et c'était également un galeriste, un marchand de couleurs. Et dans sa boutique, il conservait un certain nombre d'œuvres d'art. Et ça, c'est un tableau qui est intéressant à plus d'un titre, notamment parce que, à l'arrière de sa boutique, on voit un mur tapissé d'estampes japonaises. Alors, à cette époque, il y a une véritable vogue pour le Japon. On parle de japonisme. Le Japon, en fait, a été fermé à l'Occident pendant plusieurs années, plusieurs siècles même. Et au XIXe siècle, contraint et forcé par les États-Unis, le Japon s'ouvre à l'Occident. Et l'Europe va découvrir, fascinée, toute la culture japonaise et notamment tout l'art japonais. L'art des estampes, je pense à des artistes comme Hiroshige, comme Okuzai, ça va être un véritable choc pour les artistes européens et ça va être une grande influence pour eux, notamment au niveau des perspectives, au niveau des angles de vue. Il y a un goût pour le détail et du coup des représentations quasi photographiques chez les Japonais qui vont beaucoup impressionner et beaucoup influencer les Européens. Et ça, c'est un tableau qui montre bien cette vogue pour le Japon qui touche Paris et qui touche d'ailleurs le reste de l'Europe à cette époque. Van Gogh part en Provence, il a une trentaine d'années, et donc il va en Provence pour deux choses essentiellement. D'abord, il y a cette idée de l'atelier commun avec Gauguin qui l'habite et qui l'appelle de ses voeux. Et puis, il y a cette volonté, cette envie de renouveler l'inspiration. Van Gogh veut aller dans le sud de la France pour se frotter aux couleurs, pour se frotter à la lumière méridionale. Il veut traquer la lumière de la nuit, la lumière de jour. Il a besoin, on le sait par ses écrits, de renouveler son inspiration. Et l'une des premières œuvres qu'il réalise à cette époque, c'est La nuit étoilée sur le Rhône. Alors je vous parlais de ce goût pour la lumière, c'est une lumière qu'il va traquer aussi bien de jour que de nuit. Et là on a un tableau qui est peint en 1888, qui est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay, un tableau peint à Arles et qui représente une nuit immense qui occupe la majeure partie du tableau, qui s'étend comme une chape de plomb au-dessus de ce Rhône. Et on a une impression d'intensité avec ces bleus, avec ces jaunes, ces ors, qui est proprement écrasante. Et c'est assez intéressant de voir que dans ce tableau, la figure humaine est quasi évincée. En fait, dans la partie droite du tableau, cantonnée dans cette partie droite, on a deux minuscules personnages, on a un couple, et qui sont totalement disproportionnés par rapport au reste de la scène. Et ces personnages sont, l'impression est flagrante, écrasée par cette nuit étoilée qui s'étend sur eux comme une chape de plomb. Autre tableau, Promenade en Arles, qui est réalisé également en 1888. C'est une œuvre assez emblématique de l'art de Van Gogh. C'est une œuvre qui est toute en sinuosité. Si vous regardez bien ce tableau, on a une nature mouvante, une nature inconstante. C'est très sensible notamment au niveau des arbres qui ondulent. Et c'est une nature un peu inquiétante aussi, dans la mesure où elle est englobante. Elle cerne les personnages. Et si vous observez bien, la personne, cette femme qui, dans la partie droite du tableau, se baisse pour cueillir des fleurs, on a l'impression qu'elle est totalement englobée, qu'elle est totalement cernée par les lignes. Tout ce travail sur la ligne, c'est un travail que Van Gogh va nourrir tout au long de sa carrière et qui ensuite va avoir une influence déterminante sur les artistes ultérieurs. Je pense notamment aux artistes de l'Art Nouveau. Il y aura des liens très importants entre les productions de Van Gogh et les productions ensuite de l'Art Nouveau. C'est à Arles que Gauguin rejoint Van Gogh. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une admiration mutuelle, il y a aussi des chocs. Hein. Ce sont deux artistes qui s'entrechoquent. Autant Van Gogh est ravi d'avoir Gauguin à ses côtés, c'est une venue qu'il a attendue, qu'il a désirée ardemment, autant Gauguin, lui, reste un petit peu sur son compte à soi. Et on a des écrits de Gauguin qui sont sans équivoque là-dessus. Gauguin se montre assez acerbe, parfois même très sévère et il juge le travail de Van Gogh de façon très cruelle. Il considère qu'il a une facture trop vive, trop fébrile, qu'il a un côté ébauché, qui pêche. Van Gogh n'aura pas du tout cet état d'esprit-là. Van Gogh, lui, sera dans l'admiration totale, une admiration sans borne, totalement subjective. Bref, c'est une collaboration qui va être difficile, et on va le voir par la suite, qui va malheureusement aboutir sur un drame. Je vous laisse un peu de suspense, on verra ça tout à l'heure. Alors, toujours cette obsession pour la nuit, toujours cette obsession pour la lumière, ça c'est le café-terrasse de la place du Forum, c'était un lieu qu'affectionnait beaucoup Van Gogh, et on a à la fois la lumière naturelle des étoiles, on retrouve le ciel étoilé qu'on avait tout à l'heure sur la vue du Rhône, et on a la lumière artificielle, et notamment cette lumière qui émane du café-terrasse avec un jaune vif, dense et profond, et c'est un tableau qui, en conjuguant la lumière de la nuit et la lumière artificielle, c'est un tableau qui permet à Van Gogh d'explorer toute la palette expressive des jaunes. Alors, cette palette expressive des jaunes, on la retrouve de façon magistrale dans ce tableau intitulé L'Arlésienne. L'Arlésienne, c'est Madame Ginoux, c'était la tenancière d'un café dans lequel Van Gogh et Gauguin allaient très souvent. Et on a ce fond jaune immense, qui est éclatant. Et on a cette femme, qui est une sorte de masse compacte et noire, très dense, et qui se détache du coup avec brio de ce fond jaune. Et ça donne à cette femme une allure très solennelle, très hiératique. On a presque un côté iconique. Ça évoque les icônes byzantines, où vous avez tous ces personnages religieux, la Vierge, les saints, souvent qui sont des personnages assez monolithiques, vêtus de couleurs sombres, détache de ce fond d'or, et ça leur donne justement une teneur et une solennité très très impressionnante. Ben là, on est un petit peu dans ce type de recherche. Van Gogh, en portraitant Madame Ginoux devant ce fond jaune, cherche à lui donner une noblesse et à lui donner une pesanteur, une densité qu'elle n'avait peut-être pas forcément au quotidien. Alors, j'évoquais tout à l'heure l'influence de Van Gogh sur les peintres et sur les mouvements ultérieurs, et j'évoquais notamment l'Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est un mouvement qui naît fin 19e, début 20e, et l'Art Nouveau, c'est la toute puissance de la courbe, de l'arabesque, des lignes très ondulantes, des lignes très sinueuses. C'est un art profondément décoratif, et je le disais, les artistes Art Nouveau vont être inspirés, influencés par la leçon de Van Gogh. Là, on en a un bon exemple. On a donc une salle de danse, et en fait, on voit que tous les personnages sont cernés de noir, et cette ligne noire, elle court de part en part tout au long du tableau. Et finalement, quand on regarde ce tableau plus profondément, quand on s'y noie, eh ben, ce qui prédomine, c'est pas tant les couleurs, c'est pas tant les caractéristiques des personnages, les ornements, les yeux, les bouches, les coiffes, c'est cette ligne omniprésente et ondulante qui va dessiner ces personnages. Alors, je disais tout à l'heure que l'utopie d'un atelier commun avait été une cruelle désillusion pour Van Gogh. Ça va être émaillé, cette collaboration, de nombreuses disputes, de nombreux conflits, et puis finalement, ça va se solder par un échec. Van Gogh, un soir de désespoir, va se trancher l'oreille, et on a cet autoportrait assez bouleversant qui vous montre donc Van Gogh enrubanné par une sorte de pansement, et ça atteste donc cette blessure. Et c'est un tableau qui est très bouleversant à plusieurs titres. Bon, d'abord parce que visuellement il y a cette scarification, il y a cette cicatrice, donc on voit que Van Gogh a poussé la douleur jusqu'à s'amputer lui-même. Et c'est un tableau qui est bouleversant également parce que, à partir de ce moment-là, on voit dans les autoportraits de Van Gogh quelque chose qui ne le quittera plus, c'est ce regard vide, c'est ce regard absent. Généralement, dans les portraits ou dans les autoportraits, les personnes, les artistes représentés observent le spectateur. Il faut qu'il y ait une connivence, il faut qu'il y ait une complicité qui s'instaure entre l'artiste et entre le spectateur. Là, pas du tout. Van Gogh, il est déjà ailleurs, il est dans un mal-être profond, définitif, un mal-être qui connaît des hauts et des bas, mais qui néanmoins est inexorable. Et dans tous les portraits, dans tous les autoportraits qu'il fait, on a ce regard vide et ce regard absent. Dans les lettres qu'il écrit à Théo, Van Gogh est très conscient de cette maladie. Il est malheureux, pour autant c'est pas une fatalité. Il sait que sa vie c'est l'art, et malgré tout, malgré la douleur, malgré la perte de repères, eh bien sa vie tout entière est consacrée à la création. J'ai une lettre qu'il écrit donc à cette époque, hein, on est en 1889, on est en avril. Et voici ce qu'il dit à Théo. À la fin du mois, je désirais aller encore à l'hospice de Saint-Rémy de Provence, ou une autre institution de ce genre dont M. Salle me parlait. Excusez-moi d'entrer dans des détails pour raisonner tout le pour ou le contre d'une telle démarche. Suffira, j'espère, que je dise que je me sente décidément incapable de recommencer à reprendre un nouvel atelier et d'y rester seule, ici, à Arles ou ailleurs. Cela revient au même pour le moment. J'ai essayé de me faire à l'idée de recommencer, pourtant pour le moment, pas possible. J'aurais peur de perdre la faculté de travailler qui me revient maintenant, en me forçant, ayant en outre toutes les autres responsabilités sur le dos d'avoir un atelier. Et provisoirement, je désire rester internée, autant pour ma propre tranquillité que pour celle des autres. Ce qui me console un peu, c'est que je commence à considérer la folie comme une maladie comme une autre. J'accepte la chose comme telle, tandis que dans les crises, il me semblait que tout ce que je m'imaginais était de la réalité. Enfin, justement, je ne veux pas y penser ni en causer. Recommencer cette vie de peintre de jusqu'à présent, isolé dans l'atelier tantôt, et sans autre ressource pour se distraire que d'aller dans un café, dans un restaurant, avec toute la critique des voisins, etc., je ne peux pas. Aller vivre avec une autre personne, fût-ce un autre artiste, difficile, très difficile. On prend sur soi une trop grande responsabilité. Je n'ose pas même y penser. Donc on est dans le mal-être, on est dans la conscience de la folie, mais comme je le disais, la folie ne contrecarre pas cette envie de créer, cette envie forcenée, salvatrice, d'essayer, de tenter, de créer toujours et encore. Et quelques mois plus tard, Vincent écrit à nouveau à Théo, et il a une vision très, très lucide de sa maladie. Il écrit « J'ai une certaine espérance qu'avec ce qu'en somme je sais de mon art, il arrivera un temps où je produirai encore, quoique dans l'asile. À quoi me servirait finalement une vie plus factice d'artiste à Paris, de laquelle en somme je ne serai dupe qu'à demi et pour laquelle je manque conséquemment d'entrain primitif indispensable pour me lancer. Physiquement, c'est épatant comme je me porte bien. Mais cela n'est pas tant que ça suffisant pour se baser là-dessus, pour aller croire malheureusement qu'il en soit de même mentalement. » Alors cette folie, elle est très sensible dans ce tableau-là. On est face à un portrait saisissant, un portrait entêtant. On est vraiment saisi d'une sorte de vertige, de malaise face aux pulsations de la peinture, face aux circonvolutions. Regardez le fond du tableau, on est dans des motifs circulaires, dans des motifs concentriques qui semblent emprisonner l'artiste, qui semblent clore l'espace. Et finalement, dans un tableau comme celui-ci, il n'y a aucun échappatoire. Le bleu est omniprésent, on a l'impression de s'y noyer. Et cette impression d'enfermement, cette impression de monde clos, cette impression de malaise, elle est accentuée par le regard de l'artiste qui, cette fois-ci, nous regarde, mais avec un regard halluciné. On a vraiment l'impression qu'il est saisi d'effroi et qu'il nous regarde avec un regard exorbité. Van Gogh va être interné donc à Saint-Rémy de Provence, et malgré l'internement, malgré la maladie, il continue de créer. Dans ses peintures, peintes à Saint-Rémy de Provence, tout ce travail sur les lignes et tout ce travail sur ces motifs circulaires, concentriques, va prendre des proportions très importantes, très inquiétantes aussi. On en voit un bon exemple ici. C'est un tableau intitulé Cyprès. C'est un tableau donc peint en 1889. On est à Saint-Rémy de Provence. On retrouve ce ciel inquiétant avec ces flots nuageux très souples, très ondulants, et on a ces cyprès immenses et fantomatiques, démesurément grands, et qui semblent se tordre dans le ciel. On est dans un ciel de nuit, hein. On a ce croissant de lune dans la partie droite du tableau, et en même temps on a l'impression d'être en plein jour, donc il y a une perte de repère aussi qui nous saisit et qui nous inquiète. Le motif des cyprès, c'est un motif qui va être assez récurrent dans l'œuvre de Van Gogh. C'est un motif qu'on retrouve ici dans La Nuit étoilée, un tableau peint également en 1889. Et un tableau où le ciel, là, prend une dimension très importante. Hein. Le tableau est littéralement envahi par ce ciel qui évoque l'apocalypse. Hein. On est face à des étoiles miroitantes qui prennent l'allure d'astres solaires. On est face à un ciel tourbillonnant. Finalement, est-ce un ciel? Est-ce une mer déchaînée? Et on a toujours ce motif de cyprès qui est ondulant et qui prend une forme un peu anthropomorphe finalement. Et on est dans une sorte de rêve éveillé. On est dans une sorte d'hallucination qui met mal à l'aise et qui inquiète. On les retrouve, les cyprès, ici. Je disais tout à l'heure qu'on a une impression de malaise face à cette nature un peu inquiétante. On le voit ici avec ces arbres qui sont disproportionnés. Et cette disproportion, elle frappe l'œil quand on observe les personnages qui sont relégués dans la partie droite et qui sont minuscules, qui sont infimes et dérisoires. La nature, elle est toute puissante ici, et c'est pas du tout une nature sereine, c'est pas du tout une nature apaisante, au contraire. On est vraiment dans l'inquiétude, et cette inquiétude, c'est le reflet du mal-être de Van Gogh. Van Gogh termine sa vie dans la région parisienne, à Auvers-sur-Oise. Il va être soigné par un médecin qui s'appelle le docteur Gachet. J'aurai l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Cette période parisienne va être une période marquée par des crises de plus en plus fréquentes, de plus en plus impressionnantes. Et une des dernières toiles réalisées par Van Gogh, c'est l'église d'Auvers-sur-Oise. On est là encore face à un paysage inquiétant avec un ciel bleu, un ciel noir, un ciel qui évoque les fins dernières et avec une architecture tordue. On a cette église qui semble se mouvoir, qui est vue légèrement en contre-plongée, donc ça accentue cette dimension de pesanteur, de lourdeur, et cette impression de lourdeur, justement, elle est aussi très palpable dans cette toute petite figure, dans la partie gauche, minuscule, qui semble, là encore, totalement dérisoire face à cette église qui semble sortie de l'apocalypse. Voilà, ça c'est un des derniers tableaux peints par Van Gogh, c'est le portrait du docteur Gachet, donc de cet homme qui a suivi les derniers moments de Vincent Van Gogh. C'est un portrait assez déroutant, parce que le docteur Gachet ne nous observe pas. On a un personnage important, hein, c'était un médecin, et pourtant là on est face à un personnage, on croirait à un marin ivre mort, totalement avachi, le regard perdu, le regard vague, profondément triste, profondément mélancolique. Et c'est un tableau qui laisse une drôle d'impression. Finalement, on peut se poser la question des relations entre Van Gogh et entre ce docteur Gachet. Des relations qui ont été très critiquées. Hein. Il y a beaucoup de critiques, notamment beaucoup de chercheurs qui ont souligné le côté malsain des relations entre les deux hommes. Antonin Artaud, que j'évoquais tout à l'heure, notamment, va être assez sévère vis-à-vis de ce docteur Gachet. Et le docteur Gachet, va suivre Van Gogh et pourtant ne pourra pas le sauver, puisque en 1890, Van Gogh se suicidera. Alors l'autre pendant, c'est Gauguin. C'est un itinéraire très particulier, l'itinéraire de Paul Gauguin. C'est un artiste qui vient tardivement, en fait, à l'art. Il va se consacrer à la peinture, à la sculpture, mais c'est un itinéraire qui se construit très très lentement. Gauguin, c'est un personnage important, c'est le maillon entre l'impressionnisme et le fauvisme. Alors le fauvisme, en quelques mots, c'est un mouvement qui naît au début du XXe siècle, en 1905, c'est la date officielle. C'est un mouvement qui est caractérisé par des couleurs très fortes, très, très dissonantes. C'est un mouvement personnifié par des artistes comme Matisse, par exemple. Et Gauguin va être à la fois un homme qui va s'inspirer de l'impressionnisme et qui, par ses recherches sur la couleur, sur la lumière, va préfigurer toutes les avant-gardes du XXe siècle. Gauguin, c'est un homme du voyage. Il naît en 1848. Un an après, sa famille part au Pérou. Sa mère est d'origine péruvienne. C'est la fille de Flora Tristan, le grand écrivain. Et Gauguin, donc, va grandir au Pérou. Il va être très, très influencé par cette enfance, haute en couleurs, par cet exotisme du Pérou. Et la vie de Gauguin, toute sa vie va être un périple, va être une odyssée. Il va y avoir cette quête de l'ailleurs, cette quête de la sauvagerie, cette quête des terres méconnues, des terres inexplorées. Pour Gauguin, le voyage est rédempteur. C'est non seulement une source d'inspiration, mais c'est véritablement salvateur parce que ça va lui permettre de se renouveler constamment. Gauguin a correspondu avec Théo Van Gogh et on a un extrait de lettre. Il lui écrit en 1889. Et il témoigne de ce goût pour l'ailleurs, il écrit « C'est le fond de ma personnalité. À la civilisation pourrie, je cherche à opposer quelque chose de plus naturel, partant de la sauvagerie. » Et ce thème de sauvagerie, qui est un terme aujourd'hui un peu connoté, un peu négatif, ne l'est pas du tout à cette époque. On n'est pas du tout dans quelque chose de péjoratif, on est au contraire dans quelque chose de très riche, de très réjouissant. Et on va voir que Gauguin, toute sa vie, va être en quête de cette sauvagerie qui pour lui est vraiment une sorte d'oxygène pour se recréer à chaque fois. Gauguin est un homme du voyage et la première partie de sa vie est totalement consacrée au voyage puisqu'il s'engage dans la marine. Donc on est toujours dans cette quête de l'ailleurs, dans cette quête de l'itinérance. Et Gauguin va s'intéresser à la peinture. Alors au départ, de façon très modeste, il va suivre des cours du soir, il collectionne les œuvres contemporaines, il s'intéresse notamment à l'impressionnisme, et il va avoir la chance, la malchance, on va le voir, de fréquenter un des grands artistes impressionnistes de l'époque, Camille Pissarro. Camille Pissarro, c'est un artiste impressionniste qui va beaucoup travailler sur la campagne, qu'il va représenter à toute heure du jour, selon différentes saisons. Ça, c'est un paysage typique de Pissarro, un paysage brumeux et minéral. Pissarro travaillait beaucoup au couteau. Donc, lorsqu'on observe des tableaux de Pissarro, on est face à quelque chose de très physique. Il rend palpable la nature, il rend palpable le givre, la neige sur le sol. Malheureusement, l'image n'est pas forcément de très bonne qualité, mais aller au musée d'Orsay et vraiment ce côté physique est saisissant. Donc Gauguin s'initie à la peinture aux côtés de Pissarro. Il va créer lui aussi des œuvres dans le goût impressionniste. Un bon exemple, c'est la Seine au pont d'Iéna. Donc on est dans cette thématique de la peinture de plein air. On a ici une nature omniprésente, enveloppante, avec cette masse grise du ciel immense qui s'étend de façon totalement disproportionnée et qui couvre cette Seine verdâtre dans la neige du matin. Il y a un autre artiste qui va beaucoup influencer Gauguin, c'est Edgar Degas. Edgar Degas, c'est l'artiste qui affectionne le Mont-Clos, des chambres, des salles de bain, des salles de répétition, de l'opéra. Et Degas va beaucoup influencer Gauguin. Et là, c'est un bon exemple de cette influence. C'est une étude de nu, donc on a cette femme sur ce lit en train de coudre dans un intérieur assez rudimentaire, sans doute une chambre. On a des tons très particuliers, on a toute une harmonie de rose, de violet, la peau même de cette femme, regardez la cuisse, regardez le genou, regardez la jambe, on n'est plus du tout dans des couleurs réalistes, on n'est plus du tout dans des tons de beige. La jambe, elle prend des couleurs violettes, des couleurs rouges, des couleurs roses. On est dans une mosaïque de tons un peu étonnant. Et voici, pour faire la comparaison, un tableau d'Edgar Degas, intitulé « Après le bain, femme nue s'essuyant la nuque ». Et c'est un travail au pastel, hein. Donc du coup, on a un côté très, très doux. On a le même goût pour les scènes d'intérieur intimistes et on a le même goût pour ces coloris très chaleureux, ces tons de rose, de violet, d'oranger, qui donnent à l'atmosphère un côté très serein, un côté très intimiste. Au départ, Gauguin a une vie parisienne très banale. Il travaille auprès d'un agent de change. Bon, c'est pas un travail passionnant, mais bon, il s'en contente. Et puis, dans les années 1880, il décide d'arrêter et de se consacrer exclusivement à la peinture. Alors, c'est un pari risqué. Autant être agent de change, c'était pas forcément le métier le plus glamour, mais ça lui permettait d'avoir un train de vie certain. Autant la vie d'artiste, c'est une vie assez périlleuse, pleine d'incertitudes, pleine d'hésitations. Et malgré tout, Gauguin fait le pari de se consacrer exclusivement à la vie d'artiste. Alors cette vie d'artiste, cette carrière, il va la construire petit à petit. Ça va être laborieux, ça va être chaotique. Au début, ce n'est pas du tout gagné d'avance. Il est vraiment dans la recherche. Il est dans l'humilité de la recherche. Il n'a aucune idée préconçue. Ce qu'il veut, c'est progresser toujours et encore, et renouveler l'inspiration toujours et encore. Et pour cela, donc, il va multiplier les voyages. Alors l'un des premiers voyages qu'il fait, c'est la Bretagne, à Pont-Aven. La Bretagne, c'est un lieu un peu coupé du monde qui va devenir une région très touristique au XIXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer. Et donc on a tout un tas d'artistes qui vont faire le voyage en Bretagne, attirés par la beauté des paysages, par leur côté sauvage, et attirés aussi par le coût de la vie, qui est dérisoire à cette époque. Gauguin part en Bretagne, il cherche une certaine authenticité, hein. La Bretagne, c'est une péninsule, hein. C'est un morceau de terre qui se détache de la masse continentale pour se jeter dans l'océan. Donc il y a un côté très galvanisant dans ce territoire-là. Et Gauguin cherche justement cet ailleurs, cette sauvagerie. Il se confie à l'un de ses amis, qui était peintre également, qui s'appelle Émile Schuffenecker, et il lui écrit « J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. » La Bretagne, une première fois, et puis il se lasse, il se dit « Allons chercher l'ailleurs, encore plus loin. » Et donc Gauguin va partir en Amérique du Sud et va partir au Panama, puis en Martinique. C'est un voyage, c'est une traversée, hein. Faut traverser l'Atlantique. Il y a cette traversée donc éprouvante, enthousiasmante pour Gauguin. Il y a cette découverte de paysages, ce retour aussi vers l'Amérique latine, hein. J'ai dit tout à l'heure que Gauguin avait passé son enfance au Pérou. Et c'est un voyage pour autant qui ne le comble pas totalement. Donc Gauguin, après ce bref séjour qui dure un peu plus d'un an, retourne en France et retourne de nouveau en Bretagne. Et en Bretagne, il va travailler avec d'autres artistes, Paul Sérusier et Émile Bernard, et il va définir un mouvement, un courant très important pour le 19e et pour les avant-gardes du 20e siècle, un courant qu'on appelle le synthétisme. Avant de vous expliquer ce que c'est que le synthétisme, je voulais m'attarder un petit peu sur ce tableau-là, peint en 1888, et intitulé « La ronde des petites bretonnes ». On a un tableau typique, hein, des petites bretonnes, en costume traditionnel, chapeautées de leur coiffe d'un blanc immaculé, qui sont en train donc d'entamer une ronde. On est dans un champ. Au loin, on a le village, hein, on reconnaît les toits des maisons, on reconnaît le clocher de l'église gothique. On est dans un tableau très apaisant, très serein, et on est pour autant dans un tableau qui est totalement réinventé. Regardez les couleurs, on est face à des couleurs qui sont pas forcément conformes à la réalité, des couleurs qui pour autant sont très belles et qui semblent s'agencer en toute logique. Qui semble s'agencer avec une facilité déconcertante. Ben ça, c'est un bon exemple du synthétisme. Le synthétisme, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de s'affranchir de la réalité, de s'affranchir de la copie fidèle de la vie telle qu'elle se présente à nous, pour retranscrire ce que l'on retient de cette réalité. Donc le synthétisme, c'est une peinture subjective. On va retranscrire une vision synthétique de la réalité, d'où son nom. L'autre caractéristique du synthétisme, c'est ces aplats de couleurs pures, des couleurs qui sont cloisonnées, qui sont cernées de noir. Alors là, on le voit à peine pour l'instant, mais on va le voir par la suite, ça va être flagrant. Gauguin fréquente d'autres artistes en Bretagne, et notamment Émile Bernard. Et je vous présente pas ce tableau par hasard. On retrouve donc l'imagerie traditionnelle des Bretonnes en costume. Mais là, Bernard va pousser la leçon du synthétisme encore plus loin. Toutes les figures sont cloisonnées. Toutes les figures sont cernées d'un trait noir. Elles sont sinueuses, elles sont légères, elles sont presque évanescentes, comme si finalement elles étaient retenues à la terre seulement par ce trait noir qui les cerne. Et c'est une image, comme celle d'ailleurs des petites Bretonnes de tout à l'heure, c'est une image qui évoque une vision très idéale, très, très belle, très onirique de la Bretagne. C'est une Bretagne totalement fantasmée par les peintres qui y séjournent. Voilà, ça c'est un bon exemple du synthétisme. Une vision qui n'est pas forcément conforme à la réalité. En l'occurrence, on a des couleurs très brutes. On a ce rouge qui contraste avec toute cette masse de coiffes blanches, des couleurs brutes, des couleurs violentes. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit d'abord ces Bretonnes qui assistent à une scène, ou alors peut-être est-ce qu'elles la rêvent, est-ce qu'elles la fantasment. Et cette scène, dans la partie droite, qui donne son nom d'ailleurs au tableau, c'est la lutte de Jacob avec l'ange. Donc un épisode tiré de la Bible. Et on a vraiment une impression d'étrangeté, à la fois par le thème de ce tableau et à la fois par l'utilisation des couleurs, et notamment par ce contraste entre le rouge et le blanc. Gauguin ici s'affranchit de la vraisemblance pour peindre les couleurs de façon subjective. Il retranscrit ce qu'il voit de la réalité, et cette émancipation-là, cet affranchissement de la réalité, du mimétisme, est vraiment très important parce que ça va préparer toutes les recherches des avant-gardes du XXe siècle. Je pense notamment au fauvisme. Il y a un mouvement très important au XIXe siècle qui s'appelle les Nabis. Et c'est un mouvement qui est incarné par ce personnage qui s'appelle Paul Sérusier. Paul Sérusier, c'est l'auteur de ce tableau qui s'intitule « Le Talisman ». Et si je vous en parle, ce n'est pas par hasard, parce que c'est un tableau qui a bénéficié des leçons de Gauguin. Gauguin avait intimé à Sérusier de peindre les choses telles qu'il les ressentait, peu importe que ce soit réaliste, peu importe que les couleurs soient irréalistes, peu importe qu'elles soient peut-être parfois pas harmonieuse. Le principal, c'était de retranscrire une vision subjective de la réalité. Et là, on a un paysage, en fait. On a un paysage forestier. C'est pas forcément palpable lorsqu'on voit cet amas de taches colorées. Et c'est vraiment ça, la leçon de Gauguin. C'est-à-dire peindre les choses telles qu'on les ressent, pas forcément telles qu'on les voit, et utiliser la couleur, utiliser toutes les possibilités expressives de la couleur. La couleur, elle doit vous prendre au corps, elle doit vous émouvoir, elle doit vous parler, elle doit vous transporter, vous bouleverser. Ça, c'est la grande leçon de Gauguin. Je disais tout à l'heure, en abordant le parcours de Van Gogh, qu'il y avait donc eu cette envie d'un atelier commun, d'une communion d'artistes. Gauguin va donc partir en Provence en 1888. Les relations vont être difficiles, elles vont être houleuses. Je l'ai dit, ça se termine mal. Van Gogh se tranchera l'oreille, ça sera une cruelle désillusion pour lui. Et Gauguin a peint un certain nombre d'œuvres lors de cette parenthèse provençale, et il a peint notamment ce tableau-là, Vincent Van Gogh peignant des tournesols. C'est un tableau que j'ai choisi de vous présenter, bon, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a le motif des tournesols, qui est un motif qui va être abondamment peint et dessiné par Van Gogh. Et puis je vous montre cette œuvre-là aussi parce qu'on a une vision de Van Gogh, une vision objective. Cette fois-ci, on n'est pas face à un autoportrait, on est face à un portrait. Et on a toujours cette vision inconsistante de Van Gogh. On a un peintre avachi, presque fantomatique. Il a une allure très spectrale, Van Gogh, ici. Et on a cet air totalement absent. Cet air triste, cet air taciturne, avec un regard qu'on ne parvient pas à happer. On ne voit pas les yeux de Van Gogh ici. On voit une espèce de regard qui se noie dans la tristesse, dans le désespoir. C'est vraiment un tableau qui montre toute l'étendue du mal-être de Van Gogh à cette époque. La Bretagne, toujours. Gauguin est un amoureux de la Bretagne. Il y séjourne en 1889 et en 1890. Il y peint un certain nombre de tableaux, et notamment celui-ci, le Christ au Jardin des Oliviers. C'est un tableau qui est conservé aux États-Unis. Et dans cette image, tirée donc de la Bible, Gauguin se représente sous les traits du Christ. On a un Christ voûté, immense, avec ses épaules et ses bras gigantesques, assailli par le doute, assailli par le désespoir. Hein, l'épisode du Jardin des Oliviers, c'est peut-être le seul moment où le Christ doute et révèle son humanité. Il y a quelque chose de très bouleversant dans cet épisode biblique. Et Gauguin le retranscrit très bien. Et on a une œuvre d'autant plus puissante que Gauguin se représente tel qu'il était, c'est-à-dire très très roux. Et cette couleur rougeoyante, cette couleur orangée, saute aux yeux quand on voit ce tableau qui est, comment dire, dans la majorité, noyé sous des tons très sombres, hein, de brun, de bleu et de noir. Un des tableaux les plus fameux peints en Bretagne, c'est la belle Angèle. C'est une aubergiste, Angèle, qui l'hébergeait à Pont-Aven, qui, pour la petite histoire, refusa le tableau. Elle se trouvait immonde dans ce portrait, donc n'a pas voulu récupérer cette œuvre-là. C'est bien dommage. Et c'est une œuvre intéressante parce que donc on a à la fois la représentation de la Bretonne dans toute son authenticité, avec le costume traditionnel, et on a dans la partie gauche, une statuette exotique, une statuette influencée à la fois par l'art indien et par l'art de l'Océanie. Et on a donc ce goût pour l'exotisme, ce goût pour les cultures dites primitives à cette époque. Et ça préfigure toutes les recherches ultérieures menées par Gauguin lorsqu'il voyagera en Polynésie. Le Christ jaune. Alors ça, c'est un tableau qui est conservé aux États-Unis. Gauguin le peint en 1889. Et c'est un tableau qui a été commenté par un écrivain qui s'appelle Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, c'est un écrivain un peu oublié du 19e siècle. C'est l'une des grandes figures du naturalisme avec Émile Zola. Donc le naturalisme, hein, c'est ce mouvement littéraire qui s'intéresse à la réalité, mais à la réalité de façon très objective, voire quasi clinique pour Mirbeau. Et Mirbeau était aussi critique d'art, et c'était un fervent admirateur de Gauguin. Et Mirbeau, en 1891, donc quelques temps après la création de ce tableau, en fait la description, en fait l'éloge, et parle du parcours de Gauguin. Et parle avec admiration de cette quête de l'ailleurs de Gauguin, qui est un artiste finalement qui n'hésite pas à s'interroger, à se remettre en doute, et qui a l'audace, le courage de se renouveler à chaque fois en multipliant les expéditions un peu partout. Alors voici ce qu'il écrit Mirbeau à propos de ce tableau. Alors en plus c'est magnifique, donc je me passe de commentaires, je ne vous décris pas ma description, je le décris, je le cite. Dans la campagne toute jaune, d'un jaune agonisant, en haut du coteau breton qu'une fin d'automne tristement jaunit, en plein ciel, un calvaire s'élève, un calvaire de bois mal équarri, pourri, disjoint, qui étend dans l'air ses bras gauchis. Le Christ, tel une divinité papoue, sommairement taillé dans un tronc d'arbre par un artiste local, le Christ, piteux et barbare, est peinturluré de jaune. Au pied du calvaire, des paysannes se sont agenouillées. Indifférentes, le corps affaissé pesamment sur la terre, elles sont venues là parce que c'est la coutume de venir là, un jour de pardon. Mais leurs yeux et leurs lèvres sont vides de prière. Elles n'ont pas une pensée, pas un regard pour l'image de celui qui mourut de les aimer. Déjà, enjambant des haies et fuyant sous les pommiers rouges, d'autres paysannes se hâtent vers leur bauge, heureuses d'avoir fini leur dévotion. Telle est l'œuvre qui commence la série des toiles symboliques de M. Gauguin. Il semble que M. Gauguin, parvenu à cette hauteur de pensée, à cette largeur de style, devrait acquérir une sérénité, une tranquillité d'esprit, du repos. Mais non. Le rêve ne se repose jamais dans cet ardent cerveau. Il grandit et s'exalte à mesure qu'il se formule davantage. Et voilà que la nostalgie lui revient de ces pays où s'égrenèrent ses premiers songes. Il voudrait revivre, solitaire, quelques années, parmi les choses qu'il a laissées de lui, là-bas. Ici, peu de tortures lui furent épargnées, et les grands chagrins l'ont accablé. Il a perdu un ami, tendrement aimé, tendrement admiré, ce pauvre Vincent Van Gogh, un des plus magnifiques tempéraments de peintre, une des plus belles âmes d'artiste en qui se confia notre espoir. Et puis la vie a des exigences implacables, le même besoin de silence, de recueillement, de solitude absolue qu'il avait poussé à la Martinique, le pousse, cette fois, plus loin encore, à Tahiti, où la nature s'adapte mieux à son rêve, où il espère que l'océan Pacifique aura pour lui des caresses plus tendres, un vieil et sûr amour d'ancêtre retrouvé. Alors Gauguin, donc, comme le dit Mirbeau, part en Polynésie et part à Tahiti. Je vous présente ici une photographie de Paul-Émile Miot. Paul-Émile Miot, c'est un homme pas banal, c'est le fondateur de l'atelier de photographie de la Marine. Ça sera d'ailleurs un des grands conservateurs du musée de la Marine. Et Paul-Émile Miot a laissé tout un travail ethnographique sur la Polynésie qu'il découvre dans le dernier tiers du XIXe siècle. Donc là, on a une vision assez pittoresque de la Polynésie avec cette famille royale marquisienne à bord d'un bateau, l'Astrée. Donc on voit ces quatre personnages à moitié nus. Donc on est dans cette recherche de l'exotisme, hein, dans la curiosité pour l'ailleurs, pour l'étranger. Là, on a une autre photographie qui vous montre des pêcheurs tahitiens. Donc là aussi, hein, on est dans le pittoresque. Il faut surprendre, il faut frapper l'imaginaire occidental. Donc on a, par exemple, ce pêcheur debout, hein, qui brandit son bâton, hein, prêt à harponner le poisson. Là encore, hein, le but, c'est de frapper l'imaginaire occidental. Puis, je voulais terminer par cette dernière photographie, réalisé par Henri Lemasson. Donc là, on est pratiquement à la fin du XIXe siècle. Lemasson, c'était le directeur des postes de Tahiti, donc c'était un notable, un local. Ça a été l'ami de Gauguin. Et si je vous montre cette photographie, c'est pas par hasard, c'est parce que par rapport aux images précédentes, bah là, on a une vision totalement occidentalisée. Les Tahitiennes, elles sont vêtues à l'européenne, elles sont habillées, elles ne sont plus dans leur tenue traditionnelle, surtout pas de nudité, hein, cacher ce sein que je ne saurais voir. On est dans une image décente, normalisée de l'ailleurs et de l'exotisme. Gauguin part à Tahiti, persuadé qu'il va se renouveler, persuadé qu'il va trouver l'authenticité tant rêvée, et on s'en doute, il va être assez déçu par ce qu'il découvre là-bas. Ça va être une déconvenue. Il découvre une société occidentalisée, totalement biaisée, et ça va être une vraie déception. C'est une déception d'autant plus grande, d'autant plus cuisante, que Gauguin part avec des a priori très, très candides. Alors on en a des témoignages. Peu avant de partir, il s'entretenait avec un journaliste et il expliquait, je le cite, « Je pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l'influence de la civilisation. Je ne veux faire que de l'art simple. Pour cela, j'ai besoin de me retremper dans la nature vierge, de ne voir que des sauvages, de vivre leur vie, sans autre préoccupation que de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions de mon cerveau, avec l'aide seulement des moyens d'art primitifs. Les seuls bons, les seuls vrais. » Il est dans une quête de la véracité, il est dans une quête de la pureté, et il écrit à sa femme, alors c'est pas très sympa, hein, pour sa femme, il avait des relations assez conflictuelles, hein, donc Gauguin est très franc dans sa quête de l'ailleurs, qui implique des tas d'ailleurs, à des tas de niveaux. Bref, il écrit à sa femme en 1890, à propos de ce désir de voyage, et il lui explique puisse venir le jour, et peut-être bientôt, où j'irai m'enfuir dans les bois sur une île de l'Océanie, vivre là d'extase, de calme et d'art, entouré d'une nouvelle famille, sympa, loin de cette lutte européenne avec l'argent. Là, à Tahiti, je pourrai, au silence des belles nuits tropicales, écouter la douce musique murmurante des mouvements de mon cœur, en harmonie amoureuse avec les êtres mystérieux de mon entourage. Libre, enfin, sans souci d'argent, et je pourrai aimer, chanter et mourir. Donc on est totalement dans le fantasme hein, de ce que l'ailleurs peut lui offrir. Et donc cette quête de sauvagerie, bah, elle va être bien mise à mal lorsqu'il découvre Tahiti. Alors, au départ, il s'installe à Papeete, et puis, voyant que finalement cette vision de Tahiti ne correspond pas du tout à ce qu'il attendait, il va s'enfoncer à l'intérieur des terres. Et il va aller à la rencontre de la population autochtone. Et là, à ce moment-là, il va totalement se renouveler. Il se renouvelle et en même temps, il est dans la recréation. Gauguin va peindre Tahiti tel qu'il se l'imagine, tel que cela s'impose à lui, mais c'est nourri de tous ses fantasmes, c'est nourri de toutes ses lubies. Il y a un géographe qui s'appelle Jean-François Stazac qui a écrit un livre très court mais totalement génial qui s'intitule « Géographie de Gauguin ». Et Stazac explique comment Gauguin a réinventé les visions géographiques, ethnographiques qui s'imposaient à lui. Et il explique très clairement que ce qu'il voit de Tahiti, c'est une reconstruction intellectuelle et artistique. Mais ce n'est en aucun cas la réalité telle qu'elle s'imposait à lui. Alors, toutes les productions faites en Polynésie sont des productions reconnaissables à leurs couleurs, des couleurs très chaudes, très, très lumineuses, et elles sont reconnaissables à leur dimension aussi. Les personnages, les femmes notamment, de Tahiti sont immenses. Elles sont démesurément grandes, elles sont solennelles, elles sont hiératiques, elles en imposent par leur beauté, par leur pesanteur. C'est très sensible dans ce tableau-là, qui s'intitule « Femmes de Tahiti » ou « Sur la plage ». On est en 1891 et on voit ces deux femmes à l'allure monumentale. Et cette allure monumentale, elle est accentuée par leur positionnement. Ces deux femmes, elles occupent tout l'espace du tableau. Elles mangent l'espace du tableau. Elles sont disproportionnées et elles s'imposent avec logique, avec monumentalité aux spectateurs. Une autre œuvre très connue, peinte par Gauguin vers 1892, pardon, c'est une œuvre intitulée « Je vous salue Marie ». On a un ange qu'on n'aperçoit pas de prime abord, un ange qui est dans la partie gauche du tableau, tout en sinuosité. La figure de l'ange se perd dans les arabesques des plantes et de la végétation alentour, et cet ange révèle à deux Tahitiennes qui sont en train de joindre leurs mains et de se prosterner, cet ange leur révèle la présence de la Vierge à l'enfant. Donc c'est une thématique omniprésente dans l'art occidental, hein, la Vierge à l'enfant, c'est une iconographie vue et revue, mais là ici, elle est totalement réinterprétée. La Vierge et l'enfant sont tahitiens, la femme porte le pagne traditionnel, donc on est vraiment dans une vision totalement réinventée. Et il y a une autre touche d'exotisme dans cette retranscription de l'iconographie chrétienne, c'est la nature morte qu'on voit au pied des personnages. Dans les sociétés occidentales, il n'y a pas d'offrande comme ça aux personnages religieux. Par contre, en Océanie, oui, on offre des fruits, on offre des légumes. On est dans l'offrande très concrète. Et ça, c'est quelque chose aussi que Gauguin découvre en Polynésie. On retrouve l'idée de la nature morte, une nature morte immense, ici, dans le repas, pas en 1891. Et finalement, on a ces trois personnages, ces trois enfants qui sont relégués à l'arrière du tableau et qui semblent tout chétifs, tout minuscules, face à ces fruits qui sont représentés dans toute leur splendeur et dans toute leur immensité. L'agencement est un peu déséquilibré, il peut dérouter, et pourtant, il est savamment ordonnancé par Gauguin. Le but du jeu ici, c'est pas forcément de représenter ces trois enfants, mais c'est de donner à voir l'exotisme des fruits présentés sur cette surface blanche qui les magnifie et qui les met en valeur. L'esprit des morts veille. C'est un tableau peint en 1892. On a cette femme nue, allongée sur le lit. On la voit de dos. Et donc, elle est effrayée par l'esprit des revenants. Hein. L'esprit des morts veille, c'est l'esprit des morts qui viennent hanter la nuit venue les vivants. Pour Gauguin, la Polynésie, c'est le mystère. On est dans le mystère d'une civilisation méconnue, d'une civilisation sauvage, pas au sens péjoratif du terme, hein, au sens noble du terme pour Gauguin. Et tout dans les tableaux peints à cette époque montre le goût de Gauguin, montre la gourmandise de Gauguin pour ce mystère, pour ces légendes, pour ces contes qu'on se raconte la nuit venue. Et c'est des tableaux qui sont toujours reconnaissables aussi par les tons adoptés par Gauguin. On est dans un mélange de tons froids, de tons chauds qui renforce cette impression de force, de puissance qui émane des personnages et qui renforce cette impression de mystère. Alors, autre tableau peint avec des couleurs pas forcément conformes à la réalité, c'est Area Rea, qui signifie joyeuseté. C'est un tableau qui est peint en 1892. On est face à une nature colorée, luxuriante, avec des couleurs repensées par Gauguin. Pensez à la vision après le sermon qu'il avait peint en Bretagne. On voyait la lutte de Jacob avec l'ange dans une sorte de traînée rouge, dans une sorte de traînée écarlate. Bah là encore, on est face à des couleurs qui sont pas forcément conformes à la réalité, mais qui donnent au tableau toute sa force et tout son mystère. Et là, en l'occurrence, on a vraiment un cadre enchanteur qui sert à la conversation de ces deux femmes agenouillées. L'une d'entre elles observe le spectateur. Il y a vraiment une connivence qui s'instaure entre l'artiste et entre le spectateur. Gauguin va quitter la Polynésie. Il revient en France et il demande à Durand-Ruel, qui est le grand galeriste, le grand marchand d'art de l'époque, une exposition. Au cours de laquelle il pourrait montrer la majeure partie de ses œuvres peintes à Tahiti. Donc les Français vont découvrir eh bien, toute cette production peinte en Polynésie. Ça va déchaîner des réactions très, très contradictoires. Des critiques vont être emballées, d'autres vont être horribles, voire à la limite de l'insultant. Et je vous avais dit tout à l'heure que Gauguin se formait à Paris au contact des impressionnistes et il se formait notamment au contact de Camille Pissarro. Camille Pissarro, le vieux Camille Pissarro, qu'il avait pris sous son aile et qui lui avait appris à peindre, à s'interroger sur le motif. Et Pissarro donc découvre les œuvres peintes en Polynésie et se montre épouvantable. On a la lettre que Camille Pissarro écrit à son fils, dans laquelle donc il témoigne de ses impressions. Et il écrit: Gauguin a une exposition en ce moment qui fait l'admiration des hommes de lettres. Ils sont, paraît-il, enthousiasmés. Les amateurs sont déroutés, perplexes. Quelques peintres, me dit-on, sont unanimes à trouver cet art exotique trop figé au Kanak. Il n'y a que deux gars qui admirent. Monet, Renoir trouvent cela tout bonnement mauvais. Gauguin ne manque certainement pas de talent, mais il est toujours à braconner sur les terrains d'autrui. Et aujourd'hui, il pille les sauvages de l'Océanie. Donc ce cosmopolitisme, hein, ce recours avoué à toutes les influences qui fait la force, hein, qui fait la beauté de l'œuvre de Gauguin, n'a pas été compris forcément à l'époque. Il a été parfois très décrié. On est en plus à la fin du 19e siècle, hein, donc on est tout à fait certain qu'il y a une hiérarchie des races, hein, que les Occidentaux, les Européens notamment, sont en haut de cette hiérarchie. Donc il y a un mépris. Il y a une intolérance vis-à-vis des formes d'art dites primitives. Et d'ailleurs, tous ces arts venus d'Afrique, d'Océanie, ont été pendant longtemps taxés de primitifs. On parlait d'art primitif. C'est un terme à la base très connoté, voire carrément péjoratif. Il y a cette espèce de crainte, de suspicion vis-à-vis de ce qui est étranger, de ce qui est hors norme. Donc Gauguin fait cette exposition à Paris, exposition mitigée, des critiques élogieuses, des critiques en majorité acerbes, voire extrêmement désagréables. Et Gauguin donc retourne en Bretagne, il veut se ressourcer de nouveau à Pont-Aven. Il y reste quelque temps et puis il repart. Il repart de France et cette fois-ci définitivement. Il est déprimé, s'estimant injustement méconnu, s'estimant injustement décrié, et puis il est malade. Gauguin, il a une vie de patachon, il a la syphilis, il est à une période de sa vie où il est profondément désespéré, et donc il décide de quitter le pays et de s'installer définitivement en Polynésie. Il séjourne de nouveau à Tahiti, il y arrive en 1895 et il va y réaliser donc ses dernières œuvres. En voici un bon exemple, La femme du roi, avec cette femme monumentale toujours à la position à l'anguille, avec ce regard franc, ce regard insolent, qui évoque un tableau qui avait fait grand bruit à l'époque, on est dans les années 1860, c'est l'Olympia de Manet. Pour voilà, ceux qui ne la visualisent pas, l'Olympia de Manet, c'est une femme nue qui n'est pas du tout surprise ou outragée par le regard du spectateur, qui au contraire est très fière de sa nudité et qui plante son regard, un regard noir, un regard intense, dans le regard du spectateur. Et c'est une vision qui a été très très mal jugée à l'époque, hein. Ça a été un vrai tollé parce qu'on était dans la pudeur la plus totale. Et pourtant, c'est un tableau qui a été vu, revu, et qui a été une grande source d'inspiration pour les artistes. Et là, clairement, on est dans un clin d'œil à l'œuvre de Manet. Ben là, voilà. Là, voilà l'Olympia de Manet. Alors, autre nu, à la position à l'anguille, néanmoins un nu plus inquiétant, c'est Nevermore, pardon pour l'accent épouvantable. C'est un tableau qui a été peint en 1897. On a un nu donc imposant, gigantesque, hein, qui s'impose à nous de façon magistrale. On est dans la lignée de l'iconographie des nus, des odalisques. Pensez à la grande odalisque de Ingres notamment. Mais là encore, eh bien, Gauguin réinvente la tradition, réinvente une iconographie typiquement occidentale pour nous plonger dans un monde mystérieux, dans un monde qui nous happe, à la fois par ses motifs, hein, regardez notamment le fond de cette pièce, et à la fois par les couleurs, avec ce savant mélange, cette savante harmonie de ton chaud et de ton froid. Et puis l'œuvre majeure qui couronne toute la carrière de Gauguin, il en était très fier, c'est l'œuvre de toute une vie, c'est ce tableau, sous forme de triptyque en quelque sorte, hein, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? C'est un tableau qui est peint en 1897. Gauguin est alors en pleine souffrance, hein, il envisage même de se suicider. Et il écrit à l'un de ses amis, qui était un collectionneur, qui était aussi un peintre amateur, Daniel de Montfred. Et il lui fait part donc de son mal-être et de cette ultime œuvre qu'il réalise. Et il lui explique, je le cite, « Alors j'ai voulu, avant de mourir, peindre une grande toile que j'avais en tête. » Et durant tout le mois, j'ai travaillé jour et nuit dans une fièvre inouïe. On dira que c'est lâché, pas fini. Il est vrai qu'on ne se juge pas bien soi-même, mais cependant je crois que non seulement cette toile dépasse en valeur toutes les précédentes, mais encore que j'en ferai jamais une meilleure, ni une semblable. J'y ai mis là, avant de mourir, toute mon énergie. Une telle passion douloureuse dans des circonstances terribles, et une vision tellement nette, sans correction, que le hâtif disparaît, que la vie en surgit. Cela ne put pas le modèle, le métier, les prétendues règles dont je me suis toujours affranchie, mais quelquefois avec peur. » Donc dans ce tableau-là, qui est un tableau presque prophétique, un tableau testament, on a toute une métaphore en fait sur l'existence, sur la vie, sur les origines de la vie et sur les fins ultimes, des fins qui mènent au néant. Et on a tous les âges de la vie dans ce tableau-là. On a notamment la naissance, dans la partie droite du tableau, avec ce nouveau-né qui est veillé par ces femmes. On a la vieillesse, dans la partie gauche, avec cette femme recroquevillée, décatie, qui se tient le visage dans les mains. On est face à une image inquiétante, désespérée de la vieillesse. Et puis au centre, eh ben, on a ce personnage immense qui lève les bras pour cueillir un fruit et qui symbolise un peu cet âge intermédiaire. Et on est dans une composition là encore, hein, qui mêle savamment les tons chauds et les tons froids. On a ce jaune omniprésent, ce jaune des corps, et finalement on est face à une composition qui, même si elle évoque les fins dernières de l'homme, est pleine d'espoir et pleine de joie. L'un des derniers tableaux peints par Van Gogh en 1899, petit bug au niveau de l'écriture, de Tahitienne. Donc on retrouve hein, cette vision très monumentale, très hiératique des femmes de Tahiti. Une représentation très, très apaisante avec ces femmes qui observent à peine le spectateur et qui sont représentées dans toute leur beauté. La dernière étape de ce périple en Polynésie, c'est les Marquises. Il y part en 1901, donc il a une cinquantaine d'années, il a 53 ans. Et les Marquises, ça sera l'ultime étape, hein, puisqu'il y part en 1901 et il y mourra en 1903. Toujours dans cette quête de la sauvagerie et de l'ailleurs. La leçon de Van Gogh et de Gauguin, elle va avoir, je l'ai dit hein, abondamment, elle va avoir un grand impact sur l'art du XIXe siècle et surtout sur les avant-gardes du XXe siècle. Ce sont vraiment des peintres qui vont marquer une époque par leurs choix audacieux, par leur vie aussi peu commune. Et pourtant, la critique ne va pas être toujours très tendre avec eux. On a Gauguin, je le disais tout à l'heure, qui va être conspué à plusieurs reprises. On a Van Gogh qui va vivre dans une misère et un dénuement total. Hein. Van Gogh, il aura vendu une œuvre dans sa vie. Une œuvre. Et maintenant, ses œuvres se vendent à des prix astronomiques dans des ventes aux enchères plus prestigieuses les unes que les autres. Donc ces deux artistes qui ont eu leur vie d'artiste profondément traversée par des crises graves, à la fois des crises financières, mais aussi des crises morales, des crises identitaires. Et la critique, je le disais, n'a pas toujours été tendre avec eux. Et je voulais conclure en laissant la parole à un critique fameux, Louis Vaucelle. Louis Vaucelle, c'est un critique qui avait le sens de la formule, hein, l'expression fauvisme, cubisme, c'est Louis Vaucelle qui les a inventés. Pas de façon positive. Et Louis Vaucelle, en 1911, évoquait Gauguin, qui est mort donc déjà depuis plusieurs années, et évoquait l'exotisme de Gauguin. Et Vaucelle, qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui était quelqu'un de très vif, écrit « Il descendit à l'art de ses peuplades, l'imita, par humilité, ou bien sait-on, par furieux dépit, et nous rapporta ses idoles, ses fétiches maoris, ses épouvantails que nous regardons avec curiosité, mais sans frémissement. Cet art-là, non seulement n'est pas le nôtre, et nous ne connaissons pas ses dieux, mais une certaine tare y apparaît. L'artifice d'un Européen qui ne put même pas voir les stigmates des autres races. Tels furent et demeurent ces singuliers objets d'importation. » On voit dans cette critique, atroce et malsaine, toute la clairvoyance de Gauguin, toute la beauté de cet exotisme hein, qui a donné lieu aux œuvres les plus connues et les plus belles aussi hein, du XIXe, en tout cas c'est les œuvres les plus connues du grand public. Et on voit aussi paradoxalement tout le mépris et tout le manque de clairvoyance d'un critique qui à l'époque, je le répète, était écouté et adulé. Et c'est ça aussi finalement l'histoire des arts, c'est des petites révolutions infimes qui font passer un artiste malchanceux, démuni, à l'une des plus grandes figures du XIXe siècle.